Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Qui est de retour dans Milkshaker ? C'est Bénédicte que vous trouverez dans l'épisode 6 au sujet de son premier allaitement, puis dans les épisodes 63 et 63 bis pour nous raconter en long, en large et en travers comment elle s'est sortie d'une candidose mammaire assez coriace. Béné, c'est un peu le fil rouge de ce podcast. C'est certainement un de mes comptes préférés sur Instagram tant je la trouve simple et sincère. Alors même si déjà 3 épisodes lui sont consacrés, mais autant vous dire que ses péripéties d'allaitement le méritent largement, j'ai décidé de recueillir encore une fois son témoignage pour qu'elle nous parle cette fois-ci de sevrage. Car le sevrage de Béné et de Jules, son deuxième enfant, on peut dire que c'est un sevrage qui se passe très bien. En tout cas, il se passe comme elle l'avait imaginé, doux et progressif. Son secret ? Une parfaite alliance entre le respect des besoins de son bébé et le respect de ses propres besoins à elle pour trouver le timing idéal. Dans cet épisode, elle va vous dire comment elle a opéré pour mener à bien ce sevrage. Comme elle le dit, ça a presque commencé le jour où elle a démarré son allaitement et elle nous racontera comment son mari a joué un rôle majeur dans la réussite de ce projet. Je vous avertis que dans cet épisode, Béné évoquera des histoires de sevrage plus difficiles à mener, dont elle s'est surtout inspirée et sur lesquelles elle s'est en toute bienveillance appuyée pour définir son projet à elle. Si votre sevrage ressemble ou a ressemblé à l'un de ces sevrages difficiles, écoutez-la jusqu'au bout et ne vous sentez en aucun cas jugée dans vos choix et dans votre façon de mener cette expérience. Rappelons-nous que chaque mère et chaque dyade mère-bébé fait au mieux, à un instant T, dans le contexte dans lequel elle évolue, et que ce qui a fonctionné pour Béné n'est pas une vérité universelle, mais bien un témoignage d'un sevrage qui s'est déroulé sans encombre. Une fois que cela est dit, ça fait du bien d'entendre que ça peut être fluide, alors je vous souhaite une belle écoute et place à notre Denise nationale. Salut Béné, est-ce qu'il faut encore te souhaiter la bienvenue dans ce podcast ?
Je ne crois pas, mais bonjour quand même. Je suis chez moi ici en fait.
En fait, tu es un peu chez toi à l'instant où on se parle et en plus. Dans le podcast. Ça fait beaucoup. Bon, Béné, c'est un peu le fil rouge de Milkshaker. Ça a commencé avec l'épisode numéro 6. Mm. Ça a continué avec le 63, je crois. Comme ça.
Je sais plus. Hein.
Ouais, il me semble. Le 63.
Ça, c'est plus de mon ressort, ça.
Le 63 bis.
Le 63 terre.
Et tous ceux qui étaient attenants au 63, puisque Béné avait eu la bonne idée de faire une candidose mammaire un peu costaud. Donc, si vous voulez écouter son épisode, enfin ses épisodes, ça commence avec l'allaitement de son premier enfant dans l'épisode 6. Et ensuite, l'allaitement du deuxième, le début du mois, dans l'épisode 63. Bon, je suis hyper contente de te retrouver. On s'était aussi dit qu'on le ferait cet épisode parce que voilà, tu avais un projet de sevrage, en fait, pas précis, mais tu t'étais dit que ce serait pas forcément du sevrage naturel. D'ailleurs, à la fin du dernier épisode, tu nous dis que autour de ces 13 mois, à Jules, t'aimerais bien mettre en place une tétée matin et une tétée soir.
Ouais,
parce que j'ai travaillé avant de venir, donc j'ai réécouté l'épisode.
Ça, n'est-ce
pas ? Bah, et on est professionnel ou on l'est pas. Et donc, du coup, on en était resté à ça. Mais tu n'avais pas évoqué dans cet épisode-là, est-ce qu'avec ces deux tétés, on irait jusqu'à où veut Jules, ou est-ce que tu t'arrêterais toi-même ? Bon, moi, je me doutais un peu parce qu'on a des échanges en off. Mais bon, déjà, est-ce que tu as respecté ce truc de j'ai pas très envie d'allaiter un bambin la journée, pas envie qu'il vienne jusqu'à moi pour me soulever mon t-shirt, etc.
Ça, je l'ai fait et au final, 13 mois, je suis en train de réfléchir. Alors, il nous restait 3 tétés. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé. En fait, j'ai gardé celle de minuit qui ne me dérangeait pas parce que j'étais dans mon lit, en fait. Hein. C'est l'heure où moi, j'allais me coucher et lui, il avait un petit réveil. Donc, c'était la petite tétée...
confort.
Et puis, je pense que c'est aussi une tétée qui est assez importante pour la lactation. Du coup, j'avais gardé celle-ci. Puis, matin et soir... je ne sais plus si c'est 13 ou 14 mois dans ces eaux-là.
D'accord.
Et c'est allé jusqu'à 20 mois où j'ai sevré.
Quand on s'était laissé pour au sujet de ta candidose qui était finie et tout ça, Jules avait, il me semble, un peu plus de 6 mois parce que tu commençais à te prendre des remarques, etc. Comment ça s'est passé déjà de ces 6 mois jusqu'à l'année de vie de Jules ? Est-ce qu'après ça a roulé, qu'il n'y a plus de problème avec cet allaitement ?
Ouais. Après, j'ai plus du tout eu de soucis, et puis j'ai plus eu tant de réflexion que ça, en vrai. Je les ai eus, en fait, au moment... je pense que c'était plus des questions un peu mal tournées, du genre, mais tu as allaité longtemps, genre surprenant, tu vois. Ah oui, donc tu vas plus que 6 mois, d'accord. C'était plus ça, et en fait, après, quand les gens ont compris, en tout cas, les gens proches de moi, ont compris que j'avais bien l'intention d'en faire qu'à ma tête... Ils ont un peu laissé tomber le truc, quoi. De temps en temps, j'avais une petite question. Ah, tu l'allaites toujours ? Mais c'était jamais malveillant ni avec une réflexion. Ah, tu devrais arrêter, c'est dégueu, machin. Enfin, toujours... c'est toujours en cours. Surtout qu'en plus, il y a eu un moment où c'est passé, donc matin, soir et minuit.
Mm-hmm. Ça
et
se
du
voyait
coup,
plus.
Ça se voyait plus. Il y a plein de gens qui pensaient que j'avais arrêté. Et c'est quand ils venaient dîner à la maison ou des trucs comme ça que j'allais coucher Jules et que du coup, je commençais à dire que il va faire sa tétée, machin, que les gens disaient « Ah bon, il est toujours à l'été, voilà. » C'était un peu un non-sujet, quoi.
Ok. Donc, tu avais déjà un peu préparé ça. Pourquoi 3 tétées, tu vois, autour de ces 13 mois ? Est-ce que c'était ça, on était toujours sur de la demande ? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà commencé à réguler ? Parce que tous les bambins à 13 mois, peut-être pas que 3 fois par jour.
Non, c'est un truc que j'ai... En fait, on a sevré extrêmement progressivement et je pense que c'est pour ça que ça s'est aussi bien passé. Et que je suis contente aussi de faire ce podcast pour dire qu'il y a des sevrages qui peuvent extrêmement bien se passer.
C'est un peu l'objectif.
Sans aucun pleur. Enfin, Jules, sa dernière tétée, je pense qu'il a compris que c'était la dernière. Donc, il a un peu fait... Mais le lendemain, il ne m'a pas demandé et c'était fini. Et aucune des tétées qu'on sautait n'ont été dans les pleurs ou dans les larmes ou dans le déchirement, quoi.
Vraiment, ok, fin de l'histoire, on peut arrêter le podcast. Voilà.
Non.
Tout s'est bien passé, voilà, elle vous a donné la fin.
Non, mais en fait, c'est un
truc. On est à 4 minutes 57 d'enregistrement et Béné a dévoilé la fin.
Bonne soirée et à bientôt.
Laisse-moi faire mon travail, merde, je t'interroge.
Non, mais.
Je rigole.
En gros, c'est un truc qu'on a mis en place sur. Avec le recul, limite, je me dis, j'ai commencé mon sevrage en même temps que j'ai commencé à l'été.
Ah ouais, d'accord. C'était vraiment quelque chose que tu avais réfléchi très tôt.
Oui, alors j'y avais déjà réfléchi au sevrage sans me mettre de... Alors à telle date, ce sera ça, à telle date, parce que je me suis quand même beaucoup laissée porter aussi. Mais c'est par les expériences extrêmement négatives que j'ai pu avoir autour de moi, de copines... J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était l'enfer de sevrer un bambin. Et même des fois, je me disais, mais je ne vais pas allaiter un bambin parce que si c'est pour traverser ça avec mon enfant, c'est mort.
Ouais.
Donc, je me suis un peu renseignée et tout. Et j'ai fait des constats aussi, de par les histoires de mes copines, de quelques petits trucs. Je me suis dit, Je pense que si j'évite ça, je vais m'éviter un sevrage compliqué.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu avais constaté ? Qu'est-ce que alors, tu t'es dit bon, ça, je me dis que c'est un truc qu'il ne faut pas que je reproduise parce que ça peut me poser des difficultés.
Alors déjà, c'était la dépendance au sein pour dormir.
D'accord.
C'était donc dès sa naissance, au final. Alors, pour s'endormir le soir, donc là, vraiment, la tétée du coucher, ça, on l'a gardé jusqu'au bout. Par contre, je ne voulais pas qu'il soit tout le temps dépendant de moi pour s'endormir. Mais ce n'était pas que, au final, pour sevrer. Hein, que c'est même mieux dans, dans sa globalité quand il, quand il est amené à être gardé ou sans moi le soir quand je sortais et tout. Donc, dès la maternité, j'ai laissé la place à Romain, en fait. Des fois, il tétait et puis il ne s'était pas forcément endormi au sein. Donc, hop, je transférais à Romain qui le berçait et qui endormait son fils. Et voilà, donc j'avais remarqué que des copines qui avaient toujours été celles qui l'endormaient au sein pour tout, pour les siestes, pour les machins, avaient vraiment galéré. Il y avait aussi la réassurance au sein, que j'avais remarqué que des amis ou copines plus ou moins proches, dès que leur enfant se faisait mal, pleurait, avait un petit chagrin, un truc pas forcément le fin, c'était le sein, en fait. Et ce qui est extrêmement pratique, hein, parce que c'est vrai que moi, je m'en suis servie sur Jules sur des gros bobos ou des vaccins ou des trucs où vraiment, bah, tu mets au sein, ça passe tout seul.
Ouais.
Mais je me disais, en plus, ayant eu l'expérience d'Alessio où j'ai pas allaité très longtemps, on l'a toujours rassuré en câlinant, autrement, en machin. Donc, bah, je me suis dit, avec Jules, je sortirais pas la carte Joker à chaque fois, quoi. Donc, il y avait...
Tu t'es justement dit, ce sera une carte Joker.
Ouais, voilà. Ce sera vraiment de manière très exceptionnelle qu'on consolera avec le sein. Et donc, le troisième, c'était que c'était des femmes qui avaient jamais donné d'autres contenants à leurs enfants ou qui avaient galéré à en introduire d'autres et donc galéré à introduire le fait de d'être gardée même, que ça avait été un stress pour le bébé, pour la maman, que du coup, tu vois, quand tu veux sevrer, il y a un moment où tu passes du lait
industriel,
du lait artificiel que tu lui donnes au biberon, souvent, parce que surtout s'il est gardé, tout ça. Alors bien sûr, il y a d'autres contenants, mais c'était une étape que je voulais pas forcément galérer avec, en fait. Donc, tous ces trucs-là, c'est des constats que j'ai faits où je me suis dit, ok, ben le biberon, par exemple, il faudra qu'on l'introduise assez tôt pour qu'il l'accepte et que ce soit un non-sujet. Et ça a été un non-sujet, hein. Franchement. On a juste attendu que ma candido soit terminée pour donner un biberon de mon lait. Et puis, il a quand même eu que mon lait jusqu'à 11 mois. Donc, je tirais mon lait, etc. Mais tu vois, en fait, le fait de s'y prendre tôt, ça faisait que ça devenait vraiment des non-sujets au moment où, dans l'allaitement, j'en avais vraiment besoin. Enfin, dans le cadre du sevrage et de l'allaitement, c'est comme donner le relais à son papa pour qu'il l'endorme. Au final, c'est pas que pour sevrer.
Oui, et puis, il faut savoir derrière tout ça, parce que ce qu'on reproche beaucoup, tu vois, aux autres contenants, etc., c'est d'éventuellement, si l'allaitement n'est pas bien en place, tu vois, les histoires de confusion, là, de préférence synthétine, etc. Mais toi, dans ton cas, Jules, il avait été vu, il y avait eu des consultations, on savait que ce bébé t'était bien. Et on pouvait aussi introduire tout ça assez sereinement.
J'avais cette notion de me dire, à chaque fois, j'avais les notions de qu'est-ce que je risque à faire ça aussi. Tu vois, même quand j'ai arrêté de tirer mon lait, j'avais la notion de la baisse de lactation. Donc, tout ce que je faisais, c'était en conscience totale de me dire, ok, donc si là, je vais introduire mon biberon, si dans les semaines qui arrivent, ça pince, ça va pas, machin, c'est qu'il y aura peut-être un truc lié. Donc, il faudra que je consulte, machin, j'avais les bonnes probes. Donc, toi, j'avais Catherine qui était mon IBCLC et tout ça. J'avais ma copine Julie aussi qui est IBCLC avec qui j'échangeais de temps en temps. Donc, j'avais la notion des risques, mais je savais où j'allais, quoi.
Ouais, oui.
C'était des risques un peu que j'étais prête à prendre et qui, au final, se sont avérés hyper utiles. Pas que dans le sevrage, mais qui, du coup, dans notre sevrage, ont été
Ouais.
Et c'est pour ça qu'avec le cas, recul, je me dis d'avoir fait tout ça, ça a vachement aidé à un sevrage hyper cool, quoi.
Bien sûr, et puis dans ton cas, ces risques-là, ils étaient limités dans la mesure où on avait un bébé qui avait un bon mécanisme de succion et un allaitement qui était bien en place. Donc on prend des risques ultra limités dans ces cas-là.
Moi, je parle de mon expérience avec mon bébé.
Exactement.
C'est pas... voilà. Là, ce qui a fonctionné pour notre sevrage va pas fonctionner forcément avec tous les...
Non, on parle d'un, les... d'un témoignage, d'une expérience.
Dualité, mère-enfant.
Tous les... Duo.
Duo. Non, il y a un truc. Bon, bref.
Allez. Oui. Moi, je suis enceinte, j'ai pas mes mots. Hein.
Oui, bon, c'est pas grave. Tout le monde a compris. Et après, je trouve que c'est quand même intéressant de donner une expérience et de dire, bah voilà, vous pouvez peut-être tester ça, ça marchera peut-être ou pas chez vous. Mais en tout cas, c'est très positif.
Mais oui, bien sûr, parce qu'il faut de tout. Parce que c'est vrai que dans le sevrage, on a rapidement... De l'expérience pas hyper positive. Et puis autour du sevrage du bambin, c'est vrai que c'est un
surtout
peu tout compliqué.
Surtout sur le bambin. Surtout, moi, je te dis, je connais personne d'autre qui a eu un sevrage cool.
Ah oui, d'accord.
Ouais, dans toutes mes connaissances, c'est à chaque fois des sevrages qui ont été...
difficiles.
Assez... des petites épreuves à passer, quoi.
Ouais. Donc du coup... tu nous dis, on arrive là sur ces 13 mois, on est à 3 tétés par jour parce que c'est principalement son rythme aussi.
Non, pas du tout.
Ah,
non,
d'accord.
Non.
Pardon,
si j'avais pas laissé faire, Jules, ça aurait été le téteur fou. Mmh. Donc, ça a toujours été un duo. Vraiment, quand on dit c'est une valse à deux.
Ouais.
Ce que je suis très contente d'avoir réussi à faire, c'est de m'écouter tout le temps. Je pense aussi que c'est pour ça que ça s'est bien passé, parce que j'ai été à l'aise avec toutes mes décisions. J'étais très, très renseignée. Et au final, en fait, on a fait ça de manière extrêmement progressive. Et ça a commencé avec l'introduction du biberon à 4 mois.
Ouais.
Même si, en vrai, à 4 mois, il était encore en allaitement full jusqu'à 6 mois, parce qu'on l'a diversifié vers 6 mois et demi. Mmh. Il ne buvait pas des biberons tous les jours. C'était vraiment... En plus, moi, je l'ai eu avec moi jusqu'à 5 mois. Donc, c'était vraiment... juste l'introduire pour qu'il l'accepte.
Oui, et puis 4 mois, c'est pas si tôt non plus.
Non, enfin, non,
vois,
non,
parce
que
les femmes reprennent
plus,
à 2 mois et demi, la plupart on introduise
moi,
avant.
Moi, j'ai un peu respecté ce truc de 3 mois, surtout aucun autre contenant pour bien installer la lactation. Puis en plus, j'avais la candidose, donc hors de question de foutre du champignon dans d'autres biberons.
Ouais.
Il ne touchait qu'à mon sein. C'était pas de tétine, pas de truc, pas de choses qui auraient pu me la refiler à un moment.
Ce champignon arrêtera de se diffuser partout dans ma maison.
Voilà. Donc, non, j'ai introduit dès que la candidose, c'est terminé. Sinon, j'aurais peut-être fait un chouille plus tôt.
Ouais.
Mais j'aurais quand même respecté ce truc des 3 mois d'allaitement sans autre contenant, en fait. Parce que aussi, je pouvais, hein, parce que c'était dans ma vie, je pouvais, parce que quand tu reprends le travail avant,
tout
moment,
à fait,
t'as pas trop
le
choix.
Oui, il n'y a pas le choix. Ouais. Donc à 4 mois, introduction des biberons.
C'est ça. Qui fait que après, jusqu'à... en fait, jusqu'à 8 mois, on est resté comme ça. Je tirais mon lait quand il a commencé à être gardé. Il avait 2 biberons par jour avec ses nounous, plus le midi, il mangeait. C'était un bébé qui mangeait très bien, plus Juju. Et c'est vers 8-9 mois, tu sais, où tu as une espèce de fenêtre de tir où le bébé s'éveille vraiment au monde et l'allaitement prend un... Tu sais, genre, c'est « ouais, la tétée plus tard
». Ouais.
T'as des tétés qui sautent un peu vers cette... Et on s'est même demandé si on sevrait complètement.
Ah ouais, tu t'es posé la question à ce moment-là en te disant « ah,
il y a
une fenêtre ».
Je me suis dit « vas-y, il y a une petite fenêtre, il s'en désintéresse, est-ce que c'est pas le bon moment ?» Sauf que moi, j'étais pas prête à sevrer, j'avais pas envie. Et enfin, on en a parlé avec Romain me disait non, franchement, il en a quand même encore besoin. J'étais d'accord avec lui, donc on s'est dit, bah, on va en profiter pour faire sauter certaines tétées qui sont reloues.
D'accord. Alors, lesquelles te gênaient ?
De la nuit.
Ah, tout simplement. Hein.
Parce qu'en plus, il mangeait bien et que j'avais remarqué que dans la journée, quand il était trop occupé à jouer avec son frère ou essayer de faire du quatre pattes, ben, je voyais bien qu'il pouvait tenir 6-7 heures, tu vois, sans forcément téter. Donc je me suis dit, mais la nuit, il peut aussi, en fait, tenir, surtout s'il dort. Il n'a pas forcément faim.
Parce que c'était comment la nuit avant ça ?
Eh bien, en fait, juste, c'était toutes les 2 heures.
Ah ouais. Oh
oui. Oui, c'était un téteur fou. Hein. Ah oui. C'était,
On rappelle que Béné manque pas du tout de lait, hein, qu'on est sur une lactation hyper importante et d'un bébé qui, en effet... venez sûrement pas toutes les 2 heures pour manger, mais plus pour justement rassurer, se rendormir.
On faisait la tétée à 20h, c'était le coucher, officielle. Ouais. Et après, j'avais 22. Ah, c'était pas réglé toujours, parce que quand j'en parle des fois sur Instagram, on me dit « Oui, mais si, c'est ouf, t'étais à heure fixe. » Je dis « Non, je donne des heures, grosso modo, mais des fois, c'était quart et demi, des fois, ça saute. Enfin, » mais en gros, c'était 22, minuit, 2 heures, 4, 5 heures. Et après, il y avait 7 heures, c'était la dernière, et ça y est, on se levait, quoi.
Ça te faisait des nuits très tronquées.
Donc, ouais, mais comme je faisais du cododo, je le vivais pas trop mal, parce que en fait, c'était, je le foutais au sein. Et puis, en fait, je me rendais même pas compte quand est-ce qu'il arrêtait de téter. J'avais même une technique, tu sais, pour surtout pas me rouler vers lui. En fait, c'est se mettre sur le côté, le faire téter chacun sa tête au niveau du sein, mm-hmm. sur le côté, et le bras qui est libre, le mettre derrière son dos. Mm-hmm. Parce que comme ça, en fait, ça, quand il a fini et que tu t'endors, ça t'entraîne sur le dos et pas sur le ventre, sur ton bébé.
Oh là là, technique de chou.
Ouais. Non, non, mais comme j'ai fait du cododo très longtemps avec Jules dans le même lit et que je m'endormais, j'étais incapable de rester réveillée. Ouais. Je voulais vraiment pas qu'il y ait de risque d'étouffement ou de trucs comme ça. Et en fait, vraiment, le fait de mettre son bras dans son dos avec la main qui pendouille sur les fesses... Oui, inévitablement, tu bascules de l'autre côté. Et en fait, on se réveillait toujours, lui sur le dos et moi sur le dos. En fait, on avait chacun basculé tous les deux, quoi. Donc, voilà, petite technique entre nous.
Mais malgré tout, ça devenait casse-pied cet été. Ça commençait à...
Oui, parce que bon, même si c'était pas l'enfer, ça reste quand même très fatigant. Hein, ouais. Ça reste un réveil, ça reste... il faut que tu sortes ton sein, machin, tu le mets, t'es là. Et en fait... Je me suis dit, bon, ces tétés-là, elles ne sont pas essentielles, elles me saoulent. Donc, on va les faire sauter parce que sinon, ça va finir par vraiment, vraiment me saouler et trop me fatiguer. Mmh. Donc ça a été vers 7-8 mois. On a fait d'abord celle de 2 heures, qui était la pire. Et Romain a été l'élément clé et essentiel du sevrage, hein, quand même. Parce que,
nocturne, oui.
Pas que nocturne, hein, sevrage tout court, parce que... Mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de la dépendance de la maman aussi. C'est un truc que je pensais pas, mais on est deux gros camés, en fait. Hein. C'est
Bah ouais, je suis de cytocine en fait, que tu prends.
C'est ça, t'es sous ocytocine tout le temps, et on a tendance à trop minimiser le pouvoir des hormones sur nous, mais c'est compliqué, en fait, finalement, de s'en passer aussi, et c'est physique.
C'était Béné qu'il fallait enfermer dans
mais
une
non, mais
pièce
je te jure,
pour pas qu'elle donne son boobs.
Je comprends les mamans dont les papas veulent pas se aider, qui n'y arrivent pas parce qu'elles sortent, elles finissent par sortir leur sein, parce que physiquement, t'as envie, tu vois. Donc, les tétés de la nuit, en vrai, c'était pas si physique. C'est pour ça que j'y reviendrai, parce que ça a plus été dans les dernières tétés que ça m'a vraiment fait que j'ai ressenti ça. Et que je me suis dit, mais en fait, waouh, moi aussi, je suis dépendante de c'est pas ce que le bébé, en fait, c'est aussi la maman. Et ça, je l'avais nulle part. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que vraiment, personne n'en parle du tout. Et du coup, celle de la nuit, j'ai dormi. Donc, je me suis pas rendu compte que... Donc, on a fait à 8 mois celle de 2 heures et à 9 mois celle de 4 heures.
OK.
Et en fait, du coup, il faisait minuit, 6 heures.
Oui, il restait la soirée et le petit matin ensuite.
C'est ça, et la journée. La journée, il a été à la demande jusqu'à 11 mois.
Ok.
Donc la journée, quand j'étais avec lui, parce que quand il était gardé, j'étais pas...
Et là, spontanément, il se détournait un peu plus du sein intéressement.
C'est ça, en fait, il demandait pas. Des fois, il fallait que je lui propose. Bon, des fois, il venait demander, ça dépendait des jours. Mais j'avais remarqué qu'il y avait des week-ends, par exemple, où... sans forcément m'en rendre compte, je me le disais le soir, où je me disais, mais il a pas tété en fait. Il a quasi pas tété cet après-midi. Alors que d'habitude, c'était quand même assez. C'était nourricier, donc en fait, c'était vraiment plus réglé, quoi. Ouais. Il demandait pour manger. Et ouais, vers 8-9 mois, ouais. Ça, je crois que ça a commencé vers 7 mois et demi et jusqu'à 9 mois. Et après, t'as un regain où il se dit « En fait, c'est vachement cool quand même de téter. Donc, je vais faire mes trucs et je vais téter aussi. » Donc,
c'est pour ça que je vais faire les deux en même temps même.
De cette petite fenêtre. Oui, voilà, je vais faire les deux en même temps, regarder un livre en même temps que je suis accrochée à ma mère. T'as la petite fenêtre de tir là où t'as ce côté un peu plus simple du sevrage. Donc, nous, on a enlevé celle qui me fatiguait le plus, parce que la journée, ça ne me dérangeait pas. Et voilà, celle de... je crois que vers 11 mois, un petit peu avant que j'arrête de tirer mon lait, en fait, on a enlevé celle de 22 heures aussi.
Ok.
Donc, les premières qu'on sautait jusqu'à 11 mois, ça a été très progressif parce qu'on ne faisait pas tout en même temps. C'était d'abord celle de 2 heures, après celle de 4 heures. C'est Romain qui prenait le relais. Juju, il a chouiné un peu en comprenant que ce serait plus ce type de réconfort avec le sein. Mais franchement, ça a dû être une nuit où, ben, normal, tu lui enlèves son tété. À chaque fois, on le prévenait. On le prévenait toujours en amont, plusieurs fois. Voilà, là, même s'il est tout petit, on a toujours expliqué ce qu'on allait faire. Mais ça n'a pas été, tu sais, trois nuits horribles où il hurlait pour avoir le sein. C'est passé relativement...
Donc c'était du plus coup, comment ça se passait Du coup, s'il se réveillait et qu'il voulait téter, Romain le prenait et le berçait, le câlinait.
Par contre, sortait de la chambre, donc d'accord. Il allait dans le canapé.
Ok. <Et Jules. rire> Du coup, il dormait avec lui dans le canapé, il revenait le poser.
Soit c'est arrivé qu'il s'endorme avec Jules, soit il le reposait, mais en fait, au final, ça allait assez vite de le rendormir. Et puis, il reposait, on est passé au cododo dans son lit à barreaux dans notre chambre. Donc, il le reposait dans notre chambre. Donc, Jules, il était quand même... Il avait nos respirations et tout. Donc,
ouais, juste plus de tétée.
Ça a été... Ouais, voilà. Plus de tétée, quel que soit le réveil. Je me levais pas parce que sinon, tu sais, t'avais cette truc de... D'ailleurs, ils sont pas du pain. Si moi, j'essayais, c'était... Mais t'es là, t'as mon nichon juste là. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Sors-moi ce nichon.
Oui, c'est ça.
Donc, alors qu'avec Romain, il n'y avait pas vraiment le choix. Donc... Donc voilà, on a fait la nuit. Et ensuite, vers 11 mois...
Au bout de combien de temps ça a été possible que tu gères un réveil nocturne? Est-ce qu'il y a un moment où c'est devenu possible? Ou de A à Z, Romain a dû gérer?
Non, c'est devenu possible de 2 mois après, je dirais. Okay. Parce qu'il y a même eu un moment en été. Donc ça, on était en mai, quand on a sevré la nuit. Parce que Juju, il est de fin juin, on était en avril-mai, et genre en juillet, j'ai fait une semaine sans Romain, où je le rendormais la nuit sans qu'il tète, en fait.
Ok.
Donc c'était moi qui gérais, et ça y est, il s'était habitué fait que, ouais, il n'y avait plus de... Donc ouais, je dirais un mois et demi, 2 mois, pour être à l'aise, quoi.
Ouais, et juillet, là, on tombe sur les 13 mois où il va arriver à ses 3 tétés.
C'était à 14, donc c'était d'accord. Plus en août, parce que justement, Romain était en vacances et que j'ai attendu que Romain soit complètement en vacances pour gérer la journée. Non, mais aussi, tu vois, parce que j'ai arrêté toutes les tétées de la journée, bon, il n'en restait plus tant que ça, mais je voulais qu'on soit complètement dispo pour lui et tu vois, j'ai attendu. C'est pour ça que je dis que c'est une valse à deux, jamais je me suis fait passer forcément prioritaire. Il y avait des fois où je me disais, ok, moi j'ai cette envie, il va falloir que ça arrive, mais on va le faire au bon moment. Tu vois, l'été où tu travailles pas, t'as tes deux parents qui sont là, machin, ça lui faisait ce truc de, ils sont tous là pour moi si j'ai des angoisses, quoi. Mais il y a d'abord eu l'arrêt de tirer mon lait.
Ouais.
Qui fait qu'il a eu l'introduction du lait artificiel. Okay. Ça, c'était à 11 mois.
Okay.
Je m'en souviens bien parce que là, vraiment, j'en pouvais plus de tirer mon lait.
Oui.
Sauf que j'en pouvais plus déjà depuis bien un mois et demi, 2 mois. Sauf que je me disais, toujours ultra renseignée, c'est dangereux pour ma lactation, ça peut induire un sevrage. Est-ce que je suis prête à sevrer?
Pas encore.
Et vers 9 mois, non. Vers 11 mois, je me suis dit, bon, le temps que ça se mette en place, machin, ça fera un an d'allaitement. Bah, si jamais ça s'arrête, c'est OK.
D'accord.
Tu vois, et j'étais à l'aise avec l'idée que ça s'arrête. Et du coup, je me suis dit, allez, on tente. Et puis, si ça continue, c'est très bien, c'est du bonus. Si ça s'arrête, ben, ça s'arrête. Et j'aurais fait un an d'allaitement,
ce qui était OK avec ça.
Trop cool. J'avais pas vraiment de date de fin. Je savais juste que je voulais pas allaiter plus qu'un an et demi. Enfin, je voulais pas aller jusqu'à 2 ans.
Mm-hmm.
Mais j'avais pas non plus... Je m'étais pas dit, un an, c'est fini.
D'accord.
Voilà, c'était... Et du coup, j'ai arrêté de tirer mon lait. Donc, ça s'est très bien passé. Il a fini par avoir du lait... artificiel qu'on donnait à l'essieu, on lui a donné un biberon par jour pour compenser la perte. Et par contre, je continuais à lui donner à la demande la journée quand on était ensemble.
D'accord.
Donc le week-end, il avait cet été quand il voulait. Bon, il t'était pas non plus toutes les deux heures, hein, mais il pouvait venir et demander, je lui donnais. Et par contre, là, on était déjà à 20h, minuit, matin.
Ok.
Donc c'était 7h. Donc c'était, voilà, par 11 mois,
la nuit était, était réglée et là, c'était la journée dont tu t'occupais.
Et la journée, je pense qu'on était à 2-3 tétés, quoi. Selon. Okay. Sauf que je trouvais aussi qu'il commençait à revenir en mode ouh, ça c'est cool, vas-y, on va en faire 4, 5, 6. Donc je me suis dit, oh, on va peut-être arrêter aussi. Parce que ben, c'est quand même assez fatigant. Hein,
ouais, ouais.
Et puis au bout d'un moment, t'as plus envie de forcément être tout le temps à sortir ton sein, machin, t'es avec des gens, un barbecue, allez. Que... Voilà, moi ça me pesait un peu. Et donc j'ai attendu qu'on soit tous les quatre en vacances l'été, qu'on soit bien, qu'on soit là pour Jules. Si... Parce que tu vois, il y avait des trucs, si on avait passé une journée un peu intense émotionnellement et tout, j'avais tendance à plus lui proposer la tétée de retrouvailles aussi, quand il avait été gardé toute la journée, je lui donnais. Donc j'avais pas envie de lui couper ça. D'un coup, dans un quotidien hyper rapide où on n'avait pas le temps aussi de prendre soin de lui, donc j'ai attendu que, on était en Grèce, c'était hyper détente, on était complètement disposés pour nos enfants, donc on a arrêté les tétés, donc il avait 14 mois.
Ok, donc à 11 mois, t'as introduit le lait artificiel parce que c'est le tirage qui te prend la tête, et t'attends ces fameux 14 mois pour avoir l'environnement le plus propice possible pour virer les tétés de la journée qui t'embêtent. Et n'avoir plus que le matin.
Assez progressivement aussi. Hein. J'ai pas tout viré du jour au lendemain. Mais sur toutes les vacances, en fait, je les ai retirées au fur et à mesure.
Puis c'est un super contexte aussi, parce qu'en plus, c'est changement du quotidien, du rythme, de l'environnement. Il y a plein de trucs nouveaux, finalement.
Et en plus, t'avais un petit truc butoir aussi pour lui expliquer en amont. On lui disait, bon, attention, Juju, tu vois, on va partir en vacances, on va être en Grèce. En Grèce... on arrête les tétés la journée.
D'accord.
Tu vois, t'avais ce truc de... ça y est, on est en Grèce, donc, tu vois, on t'avait prévenu, on arrête les tétés la journée. Donc, t'avais ce truc de lui expliquer. Et au final, ça a été aussi assez un non-sujet. Il y avait des fois où il me signait tétés quand il se faisait mal ou des trucs comme ça. On détournait l'attention et puis on lui faisait un gros câlin. Et il y avait ça aussi que j'avais remarqué. C'est que souvent, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Quand mes copines sevraient, c'était du jour au lendemain, j'enlève tout. Tu vois, c'était ça y est, j'en peux plus, je suis allée à mon max. Ouais. Il a tété limite en continu depuis qu'il est né, depuis 20 mois.
Et là, moi,
je peux plus, donc terminé. Moi, je me disais, en fait, je pense que c'est beaucoup plus acceptable pour l'enfant et même aussi pour la maman de les enlever une par une sur des temps hyper longs. Parce qu'en fait, au final, des fois, il passait 2 mois avant qu'on en retire une, tu vois.
Et puis même hormonalement, c'est beaucoup plus... Oui. Là, on vient de sortir un épisode sur le deuil de l'allaitement, etc. Et elle explique qu'en fait, que vraiment, hormonalement, il se passe des choses qui font qu'on le vit plus ou moins bien aussi, en fonction de l'arrêt brutal.
Tu te fais un sevrage à toi aussi, hein.
Bien sûr.
Je te dis, on est des gros camés. Hein. En allaitement, c'est...
Ouais, donc en fait, hyper progressivement, tété après tété.
Et c'est pour ça qu'avec le recul, je me dis, j'ai commencé mon sevrage limite en même temps que j'ai commencé mon allaitement.
Ouais, mais t'as pensé à la fin, c'est comme les mariages quand tu fais ton contrat de mariage chez le notaire. Tu penses au divorce avant de se marier. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, mais en même temps, c'est pas con parce que ça
permet. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de trucs comme s'il fallait absolument entretenir la lactation. Sauf qu'en fait, ta lactation, au bout d'un an, elle est... C'est d'ailleurs ce que j'en avais parlé avec ma copine Julie, qui est BCLC, quand j'ai enlevé, que j'ai arrêté de tirer mon lait. Elle m'a dit, bien sûr que c'est une éventualité que ça induise un sevrage, parce que lui, il peut s'en désintéresser. Mais elle m'a dit que franchement, que ça induise une baisse de lactation telle que ça te fasse arrêter d'allaiter après un an d'allaitement... Elle me dit, franchement, faut vraiment avoir des gros, gros soucis depuis le début de lactation pour que ton lait disparaisse comme ça, parce que parle d'un an d'allaitement.
Oui,
tu
et
vois,
puis on sait que les seins produisent du lait encore longtemps après la fin de l'allaitement.
Oui, donc en vrai, c'était pas un risque
Tu prenais pas un risque inconsidéré, non.
Je pouvais, si, plus dans la réaction de Jules.
Oui.
Tu vois, de plus avoir de lait.
C'est plus dans la façon d'induire un sevrage pour oui. le bébé que pour la lactation en elle-même à ce stade-là.
Et du coup, moi, je voulais... C'est ce constat aussi de me dire, mais en fait, mes copines, elles ont été limite en à la demande. Et puis d'un coup, elles se disent, ça y est, il faut que faut qu'on arrête. Et puis, c'est hyper dur d'arrêter. Alors, même si tu mets des arrêts tétés progressifs, mais à partir de 20 mois, c'est vachement plus dur que quand tu as commencé à arrêter à 8 mois. Tu
ah
vois.
Bah oui, oui, c'est sûr.
Donc c'était tous ces constats que je me suis dit, ouais, vas-y, moi je veux pas que ça... Je veux essayer de faire autrement, je veux pas que ça se passe comme ça pour nous. Et au final, j'allais un peu, je marchais un peu à l'aveuglette, c'était un peu au feeling aussi, mais ben, ça a bien fonctionné de faire comme ça. Ouais. Après, est-ce que c'est aussi parce que j'avais un bébé qui était plutôt... Quoique non, il était quand même très accro.
Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte toute façon. Mais si tu n'avais pas eu ces mauvaises expériences autour de toi, est-ce que tu aurais envisagé un allaitement plus long, tu vois ?
Pas plus long, non. Mais je pense que j'aurais fait, j'aurais fait la même mécanique de me dire, ben, je fais tout, ce truc de tout ou rien en fait. Bon bah j'allaite, ouais. Donc l'allaitement c'est comme ça, c'est la nuit, c'est le jour, c'est machin, c'est à la demande quand on peut, même si tu refuses quelque chose.
Tu te serais moins écoutée en fait ?
Peut-être ouais, parce que dans les infos que tu trouves, bah, d'autant plus sur Instagram, t'as beaucoup ce truc de c'est full time,
c'est
machin.
C'est soit tout, soit rien, c'est pas assez nuancé,
c'est
ouais,
ça.
Tout à fait.
Et ça manque beaucoup de nuances, et quand t'as pas vécu ces expériences de par tes copines et que t'as pas été témoin de tout ça, tu dis ok, bah c'est la manière de faire en fait.
Oui, et puis il faut le dire, il y a de l'information pas juste qui circule.
Oui,
parfois c'est de
plus.
L'information basée sur de l'expérience justement et pas sur des faits en fait. Mais si on connaît bien la physiologie et tout ça, bon, on sait que il y a des cas où c'est un risque en effet comme tu dis, mais qu'il n'est pas à considérer. Que s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que j'en fais, enfin, et on peut s'adapter.
Et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je pense que faire comme ça et induire le sevrage qu'à partir de 18 mois, tu vois, quand tu commences à en avoir un petit peu marre, ben c'est trop tard.
Tu t'es dit, c'est une folie, ça va pas bien se passer.
Je pense que c'est commencé trop tard. Parce que t'es plus dans la même relation de l'allaitement, ton bébé n'a plus la même relation à l'allaitement que quand il est... Je me suis quand même beaucoup écoutée, mais je pense que j'aurais quand même commencé assez tôt, malgré tout, même si ça ne m'avait pas dérangé d'allaiter la nuit ou machin. Mais qui, ça ne dérange pas de se réveiller tous les 2 heures ? Je ne sais pas.
Tu avais connaissance que cet allaitement à la demande, en fait, pouvait se transformer en allaitement à l'amiable et qu'en fait, c'est assez
ça,
tôt que ça s'introduit parce que c'est, en fait, c'est un peu finalement spontanément ce que tu as fait. Mais c'est vrai que quand il passe de bébé à bambin, là, des 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an, en fait, c'est la période où les enfants commencent à être frustrés et que c'est OK de leur dire non parce qu'en termes de besoins nutritionnels, on est sur autre chose et qu'on peut instaurer la relation à l'allaitement qu'on souhaite, en fait.
Et puis d'être dans l'écoute des deux parties, tu vois. Parce que autant au début, même si... sauf si tu ne fais pas le choix d'allaiter, et c'est complètement OK aussi, hein, moi j'ai eu les deux expériences. Mais au début, tu n'as pas vraiment le choix de te réveiller la nuit parce que c'est nourricier et tu sais que ton bébé, il dépend de ça pour grandir.
Exactement.
Donc, en fait, tu ne te poses même pas la question, sauf qu'à partir du moment où
Tout comme tu travailles la nuit pour des bibes aussi.
Oui, voilà, exactement. À partir du moment, par contre, où il est diversifié et que tu te rends compte que dans la journée... ça se passe très bien, il n'a pas forcément faim, et que oui, tes tétées de la nuit, elles entretiennent ta lactation, mais elles t'épuisent aussi, tu vois. Enfin, c'est le moment où tu peux dire, j'en enlève une, ça se passe bien, ok, j'en enlève encore une, ça se passe bien, il n'y a pas d'incidence sur mon allaitement, ok, vas-y, je vais encore enlever le sel de 22 heures. Tu vois, c'était, j'attends de voir ce qui se passe, et je continue.
Ouais.
C'était on a pris notre temps et vraiment je regrette pas parce que ben ça a été très très doux finalement.
Donc à la fin des vacances de Grèce là à 14 mois, il en est où de son rythme ?
Il en est à matin soir minuit.
OK.
Il nous
très
reste
bien.
Vraiment matin soir minuit. Et c'est en octobre, je crois. Et à un moment, j'ai viré celle de minuit parce que j'en avais marre. et que c'était plus tant une... Ça le réveillait plus qu'autre chose, tu vois. C'était plus un moment câlinou et je te recouche et c'est bon, tu dors. C'était plus... et puis hop, je t'attrape le nez. Et puis machin. Oh, la nuit est finie. Bah non, non, en fait.
Non, elle vient de commencer, là.
Donc, ça me... Ça a été celle qui a été la plus compliquée, je crois, à arrêter. On n'a jamais, jamais eu de hurlement ou de déchirement. Mais tant pour lui que pour moi. Et je crois que tu as un pic de progestérone, je crois, ou je ne sais plus quoi, la nuit, entre minuit et deux heures, qui aide beaucoup à... Enfin, qui favorise ta lactation. Qui se fait la nuit.
De prolactine.
De prolactine, voilà.
Parce que la progestérone, c'est pas la copine de la prolactine, c'est plutôt l'inverse.
Je pense, hein, mais... Donc là, t'as ce pic, je pense que, voilà, t'as ce petit jeu d'hormones qui... En fait, ça a été même difficile pour moi de l'entendre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alors, c'était pas des chouinements, enfin, c'était pas des hurlements, c'était pas... il appelait pas après moi, il était avec Romain, je savais qu'il était complètement en sécurité émotionnelle et tout, avec son papa. Mais rien que le fait de l'entendre râler un peu les deux premières nuits, j'avais envie d'y aller, tu vois.
Ouais, c'était cette tétée-là, enfin, c'est cet horaire-là où tu te disais, bon, là, je suis tox.
Ouais, et j'étais dans le canapé, je me souviens, et j'arrivais pas à passer, et j'attendais. J'ai l'impression qu'il y a eu une fois, ça a duré, il a ralouillé 10 minutes, une autre fois 5, et après ça a été fini. Mais j'ai eu l'impression que ça durait des heures, ces 10 minutes, j'étais là, putain, il n'y arrive pas, il va pas y arriver.
Mais tu t'es dit, je suis sous emprise
limite,
désormais.
Ouais, je me disais, Romain va pas y arriver, alors que vraiment, c'était pas...
C'était un non-sujet, quoi.
Ouais, c'était un non-sujet, c'était pas un bébé en détresse, tu vois, c'était... C'était un bébé qui râle parce qu'on lui arrête sa tétée, mais tu sais, c'était plus des petits... Tu sais, le bruit des bébés qui sont pas très contents, mais qui font avec quand même. Et du coup, j'étais limite derrière la porte, tu sais, comme ça, là. Il va pas y arriver, il faut que j'y aille, machin. J'ai même un moment dit, t'as besoin d'aide ? Vas-y, va-t'en. Ok, c'est bon, je m'en vais. Parce que... Et c'est là où je me suis dit, putain, mais même moi, physiquement, c'est dur. J'avais envie de sortir mon sein, genre « J'arrive, mon bébé
!» En sauveuse.
Alors, personne ne m'appelait, mais...
Bah, donc, lui, un peu, mais...
T'as ce truc... C'est là où je me suis rendu compte que c'est très physique pour la maman aussi. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu Romain, mais c'était sûr que je lui donnais.
Oui.
Et oui, c'est pour ça que les mamans, elles galèrent, je pense, parce que parfois, je parle là sur Instagram avec des mamans qui me disent... J'y arrive pas, j'essaie, mais je finis toujours par craquer. Je te jure que c'est comme les camés, quoi.
Si t'as pas de relais...
Tu résistes, puis au bout d'un moment, tu cherches ton shoot aussi, en fait. Donc quand t'es deux gros camés et que t'as pas fait ça progressivement, imagine, ça te met aussi dans un état de mal-être, je pense, en tant que maman.
Ouais, certainement, bien sûr.
Qui est pas forcément que lié à... T'avais un certain taux d'ocytocine qui était full tout le temps et d'un coup, tu t'enlèves ton hormone de bonheur. Ça aussi, tu vois, on n'en parle pas, mais moi, quand ça a été complètement fini, je suis passée par un petit blues. Mais je pense le temps que ce taux d'ocytocine redevienne une norme sans allaitement, en fait, parce que t'es sous...
T'écouteras l'épisode qui vient de sortir, c'est vraiment sur ça. Et que voilà, même quand c'est désiré hormonalement, il se passe quelque chose qui fait que voilà, bah, soit ça peut être un petit blues comme ça, ou plus embêtant.
Alors imagine quand t'étais au level max et que t'arrêtes complètement, tu vois. Enfin, c'est normal que tu aies des crises de larmes et des trucs en tant que maman aussi et que tu te dises, mais je suis une mère horrible de nous imposer ça. Alors qu'en fait, t'en peux plus. Tu vois, c'était ça. Je voulais pas arriver à ce stade-là. Je voulais pas être dans ce truc de j'en peux plus, il faut absolument que j'arrête. Et en même temps, je me trouve horrible d'arrêter.
D'accord.
Tu vois, c'était vraiment un truc que je voulais éviter.
Ouais, tu voulais éviter cette ambivalence à tout prix.
Ouais. Et au final, bah, je voulais plutôt bien éviter, mais heureusement qu'il y avait Romain. Franchement,
il a été... T'es l'élément clé.
Ouais, 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 vraiment. Sans ça, je pense que c'est extrêmement difficile de sevrer un bambin et tu passes par des moments pas cool.
Jusque quand on reste... Alors, tu nous as dit octobre, la tétée de minuit qui s'en va.
On l'a enlevée. Et ensuite, c'est vers 18 mois que j'ai commencé à sentir que j'avais envie de complètement arrêter parce qu'en plus, j'étais tout le temps malade.
18 mois, on est en décembre.
Ouais, on est en décembre. J'étais vraiment, vraiment... Et je sais que c'était lié à l'allaitement. Enfin, j'ai aussi une maladie qui fait que j'ai pas un système immunitaire au max du max tout le temps. J'ai des fatigues chroniques, des trucs comme ça. Ajouter l'allaitement, mon système immunitaire, je pense qu'il était au plus bas. J'ai été malade toutes les deux semaines pendant toute... Il y a ça
deux
aussi,
enfants,
tu vois, mais tu ajoutes en plus le truc d'un système immunitaire déjà pas très performant.
Un peu foufou.
Donc, j'en pouvais plus d'être malade toutes les deux semaines.
Ouais.
Depuis la naissance de Jules, j'étais malade toutes les deux semaines. J'ai fait des maladies genre la scarlatine, enfin des trucs bien, bien corsés, bien what the fuck. Et j'étais encore malade et je me suis dit, ah, ça y est, je peux plus physiquement... Je suis trop au bout de ma vie, quoi. Même s'il reste que deux tétés, faut que ça s'arrête, c'est ça. Et puis, ce désir aussi de récupérer ton corps, tu vois. 18 mois, je me suis dit, c'est cool. Sauf que c'est tombé pile au moment où on déménageait.
Ah.
Et bah, tu vois, pareil, j'ai pensé à Jules. Je me suis dit, ça fait quand même déjà beaucoup de choses. Donc, au début, je me suis dit, on va le faire dans la nouvelle maison qui était prévue pour début janvier. Après le nouvel an, on devait s'installer, sauf que retard, parce que travaux,
oui,
parce que machin.
Quand il y a des travaux, il y a toujours du retard.
On ne s'est pas du tout installé début janvier. Et on a quand même arrêté, donc on était chez mes parents. Et vraiment, je me disais, j'arrête tout quand on sera installé dans notre maison, qu'on aura trouvé nos marques. Parce que je ne voulais pas trop le perturber. Et en fait, on a quand même arrêté celle du matin chez mes parents, parce qu'en fait... Je pense que c'est venu de lui et moi. C'était devenu une tétée amusement. Et ça me saoulait. Franchement, il devait téter 30 secondes. Et après, il me faisait ça, comme ça, là, sur le... Et puis, il me montait dessus. Et puis, il redescendait. Mais il était 6h du mat. Donc,
ça passait plus.
Autant, jusque-là, c'était une tétée qui le faisait continuer un peu à dormir. Donc, j'arrivais à pousser jusqu'à 7h30. Où, bon, OK, il tétait... Mais tu sais, moi j'étais dans un petit sommeil et lui il se rendormait à moitié. Que là, c'était transformé en je joue avec ma mère à 6 heures.
Oui, là c'est beaucoup moins acceptable.
Puis, tu sais, je disais Juju. Et tu sais, il lâchait mon sein, genre avec le petit sourire là. Et après, il reprenait là. Alors, t'as les petits yeux coquins mignons, mais bon, tous les matins à 6 heures. Il ne suffisent plus les petits yeux coquins mignons.
Il y a un moment où ça, oui, la balance
donc,
penche
à Romain,
du mauvais côté.
Comme en fait, on avait toujours des réveils vers 2h, Romain finissait souvent ses nuits avec Jules. Donc, il me le ramenait à 6h en fait. Il le redéposait, il allait se recoucher. Et j'ai dit à Romain, non, bah, là, tu lui donnes un bib de lait artificiel le matin pour le petit-déj. Mais je ne peux plus, tu ne me l'amènes plus. Alors, ça a été le non-sujet total. Mais il n'a même pas essayé de râler ou quoi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il était plus que prêt à arrêter, que c'était vraiment de l'amusement. C'est qu'il a pris son biberon et puis après, il partait jouer avec ses petites voitures, ce petit machin. Il était juste réveillé.
D'accord.
Donc, qu'on soit chez mes parents ou pas, ça ne l'a pas perturbé. Et du coup, ça a duré jusqu'à 20 mois parce que la tétée du soir était encore très importante. Il la réclamait, ça faisait partie de notre rituel pour le coucher, ouais. Et tout, donc je me suis dit, bon, celle-là, je la garde jusqu'à ce qu'on soit chez nous et qu'on ait quelques petites habitudes chez nous. Et en fait, une fois qu'on a emménagé, j'ai attendu un petit mois qu'on soit. En vrai, j'aurais pu peut-être un peu moins, mais je me suis dit, bon, il va avoir 20 mois, vas-y, je vais jusqu'à ces 20 mois.
Elle te dérangeait cet été-là encore ?
Elle commençait à être dérangeante parce que je pense que le fait d'avoir arrêté celle de minuit qui m'a fait, je pense, un petit coup à ma lactation quand même. Celle du matin, il restait plus qu'une tétée, il y avait plus grand chose, elle commençait à me faire mal.
Ah,
tu
ouais.
Vois, c'était plus agréable.
C'était un peu avide.
Et du coup, lui aussi, il lâchait, tu sais, mais quand il lâche avec la,
en ayant un peu tiré dessus,
là, ouais. Avec les dents, à chaque fois c'était ça. Il fallait qu'il se retire. Donc tous les soirs, ça me faisait un peu, un peu mal. Et du coup, j'ai un peu serré les dents, histoire qu'il soit dans des bonnes conditions. Et je me suis dit, vas-y, pour le truc, je vais jusqu'à 20 mois, jusqu'au jour de ses 20 mois, histoire de dire, vas-y, j'ai été jusqu'à 20 mois pile.
Ah ouais, le jour de son mois anniversaire, ça fait ça.
Ouais, je me suis dit, oh, ça fait un petit anniversaire de la fin de l'allaitement.
Un anniversaire, chérie.
Genre, ça fait un petit cap, genre 20 mois, hop. Puis je l'avais prévenu aussi, comme ça. Je lui ai dit, tu vas avoir pour un mois, ça y est, t'es un grand bébé, il n'y aura plus la tétée pour faire dodo. Et du coup, je l'ai prévenu en amont, je lui ai fait sa dernière tétée, et le lendemain, il n'a pas signé, il n'a pas réclamé, il n'a pas dit tétée, mais il a pas mal pleuré avec Romain. Pas encore des pleurs déchirants, mais des pleurs un peu tristes, tu vois, qui étaient difficiles aussi à entendre pour moi. Et les deux premiers soirs, je me suis dit, si j'y vais, il va être trop tenté, machin. Et en fait, c'était pas lié, je pense, à la tétée, c'était plus lié au fait, c'est ma maman qui me couche depuis que je suis bébé, depuis que je suis née. Je veux pas me coucher avec toi, en fait, moi je veux ma maman, tu vois. Ça faisait un peu mon rituel, c'est avec elle. Et donc j'ai fait deux soirs où j'ai résisté, où finalement Romain... Parce qu'aussi j'avais cette expérience de mes copines qui m'avaient dit « Oui, si t'y vas,
C'est la cata,
même s'il a 20 mois. » Alors qu'en fait, nous, on n'était pas du tout dans ce type de sevrage, donc c'était pas comparable.
Oui, et puis t'avais quand même eu, tu vois, l'idée que jusque-là, chaque tétée avait été permise, avait été enlevée et ça avait été permis par Romain. Donc du coup, vous étiez restée sur ce schéma-là.
Oui, et je voulais pas le tenter non plus. Sauf que le troisième soir, il a recommencé un peu à pleurer. Et tu sais, tu connais aussi les pleurs de ton enfant. Et je me suis dit, c'est pas des pleurs de frustration, là. Je sens qu'il est un peu tristoun. Et donc, j'y suis allée, je l'ai pris. Et en me disant, mais en fait, je pense qu'il veut juste que ce soit moi qui le couche. Et en fait, il a mis sa main juste en haut à la naissance de mon sein, tu vois. Il n'a pas demandé à téter. Et il s'est endormi en deux secondes.
Ouais.
Donc, c'était vraiment... J'ai juste besoin être de avec ma toi. Maman, j'ai pas besoin de téter, j'ai besoin de ma mère, quoi.
Il avait très bien compris, en tout cas.
Oui, il avait bien compris que c'était fini. Et il m'a redemandé une fois, parce que j'étais sans soutif devant lui en vacances.
Il s'est dit, tiens,
et
je connais.
Et il était debout sur le lit, et donc à peu près à ma hauteur, et il m'a signé tété, tu vois, en les regardant, genre, oh, ils sont là, mes potes. Et du coup, j'ai dit, donc je me suis dit, je fais quoi? Je le laisse faire, je vais... Et je lui ai dit, tu veux téter? Et il a fait genre... Il a mis vite fait dans sa bouche, fait un bisou et il s'est parti. Genre c'était un peu le... Ils sont toujours là. Bon, j'y touche plus, j'ai plus forcément envie non plus, mais c'est bon, ils sont là.
C'était le vrai au revoir des tétés.
Et depuis, par contre, il n'y a plus jamais eu de demande.
Ok.
Voilà, ça s'est fini comme ça.
Facile.
Facile, quand on en parle comme ça, t'as l'impression que le truc était prémédité, hyper réglé, que limite, oh c'est saoulant de penser à tout ça, on n'avait pas pensé à tout avant, il y avait juste des trucs qu'on voulait éviter, donc des trucs qu'on a fait pour les éviter, mais au final on s'était pas donné des dates d'arrêt.
Ça a été une façon de conduire cet allaitement, pensant au fait que...
Qu'il irait pas jusqu'à un sevrage naturel de toute façon.
Ouais, donc, et puis, mais parce que c'était pas ton souhait, en fait. Donc, t'as mené un allaitement en fonction de l'envie que t'avais.
Ouais. Exactement.
Et puis, t'aurais pu avoir envie d'un sevrage naturel et malgré tout, mettre en place tôt un allaitement plus à l'amiable qu'à la demande. Enfin,
mais je pense
tout
que quand
possible.
Tu fais ça et que tu le mets en place tôt, finalement, les dernières tétées qui restent, quel que soit l'âge de ton bambin, même si tu restes avec matin et soir pendant 2 ans, bah, quand elles partent, quand tu décides de les arrêter, elles s'arrêtent assez facilement parce que ton bébé grandit et qu'il est capable aussi au bout d'un moment de comprendre un peu mieux que tu dises non, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ce truc d'éviter certaines choses dont j'avais été témoin, certains mal-être aussi, qui ont fait que qui ont conduit en fait nos décisions.
Ouais.
D'accord. Se dire, je veux pas de ça. Et je vais essayer en tout cas de pas avoir ça. Comment faire pour l'éviter, quoi.
Ok. Bah écoute, tu t'en es pas trop mal sortie.
Plutôt bien.
En tout cas, je sais pas si c'est le plan qu'il faut faire, mais c'était le plan qu'il fallait faire pour vous,
pour
vous quatre, là.
Pour notre famille, ouais.
Voilà, ça a bien marché.
C'était l'idéal.
Rapport au physiquement, tu vois, parce que pour toi qui avais une lactation très abondante, on parlait même d'hyperlactation dans les démarrages d'allaitement, et de, voilà, fallait pas trop stimuler, etc. T'avais trouvé ton rythme aussi, tu vois, à la fin de l'épisode la dernière fois, tu disais, en fait, je surstimule pas, si je tire que d'un côté, il tète d'un côté, je mets le recueil-lait de l'autre, etc. Et voilà, j'essaye de tamponner comme ça. Quand t'as retiré les tétés, comment ça s'est passé pour toi physiquement? Est-ce que tes seins ont un peu crié au secours? Ou est-ce que non, ça aussi, ça s'est bien apaisé?
Celle du début de la nuit, oui. Du coup, je tirais un tout petit peu, juste le surplus. Bah déjà, bon, il tétait le matin sur un sein, donc ça me vidait bien un sein. Après, bon, comme c'était quand même assez tard dans mon allaitement, mon hyperlactation, c'était un peu réglé quand même.
Calmé, hein.
Mais après, je tirais un tout petit peu sur l'autre, ça s'est régulé. Et comme en fait, pareil, tu vois, on en enlevait la première à 8 mois, puis à 9, j'avais un mois entre les deux pour pas m'engorger, en fait, pour que mon corps comprenne que, en fait, cette tétée-là, elle a sauté, ok.
Oui, c'est long, un mois.
Ça s'était re-régulé. Donc après, t'en fais encore sauter une, celle-ci, elle saute, bon, bah voilà, pareil, encore un mois, donc... Au final, j'ai pas eu d'engorgement, pas eu ce genre de problème parce que c'était pas du ou tout l'un ou tout l'autre. C'était vraiment le une par une. Donc
Et les premiers jours, voilà, s'il y avait un peu de tension dans les seins, tu tirais juste le surplus.
Plutôt manuellement que. Mais en vrai, en 2-3 jours, c'était réglé.
Ouais, donc c'était classique quoi. Enfin, ce qui doit se passer relativement classiquement.
Après, je tirais quand même des quantités, je pense, plus importantes que la moyenne, mais j'étais pas en gêne.
Pas de souffrance.
Pas de souffrance au niveau de ma poitrine, quoi.
C'était... Ouais.
Et puis alors après, par contre, ça a été celle de la nuit qui ont fait ça. Après, non, j'ai même pas eu besoin. Quand j'ai enlevé celle du jour, il y a eu peut-être une journée où ça a un peu tiré. Mais en fait, ton corps, je pense qu'il comprend vite que il n'y a plus rien pour...
Oui.
Et après, ça a été jusqu'à à peu près, je pense, 15 mois. Par exemple, si je m'absentais une journée plus une nuit, là, il fallait que je tire. Tu vois, fallait que...
Parce que tu vides.
Fallait que je vide. Tu vois, en Grèce, on a fait une nuit sans eux, on les a laissés à mes parents. Et là, j'ai emmené mon tire-lait. J'ai tiré qu'une fois. Hein. J'ai vidé complètement. Et puis le lendemain, c'était bon. Et j'ai retrouvé Juju
comme
le soir.
Comme la tétée qu'il faisait, quoi.
Oui, c'est ça. Mais après, par exemple, à la toute fin, je pense qu'en fait, il restait tellement plus que j'ai même pas eu une espèce de sensation de truc ou quoi.
Oui, comme tu disais, la lactation en avait quand même pris un coup. Parce que quand il reste plus qu'une tétée par jour, c'est vrai que...
Il n'y a plus grand-chose. Hein. Donc non, j'ai pas eu... Ça a été tellement progressif que j'ai pas eu de gêne physique en fait.
Ça a été fluide à tout niveau, cette histoire. Cool.
Voilà.
Si tu devais retenir quelques petits conseils que tu donnerais aux mamans pour sevrer un bambin, tu dirais quoi?
De s'écouter, vraiment. Moi, c'est vraiment ce que je suis contente d'avoir réussi à faire. C'est de
s'écouter très tôt en fait.
Oui, très tôt, dès le départ. En prenant en compte son bébé quand même, parce que on n'est pas...
Évidemment.
Tu sais, t'as l'impression, quand tu parles de sevrage comme ça, un peu induit sur du long terme, que t'es une mère horrible, que c'est horrible de faire ça à ton enfant, machin. Sauf que non, on n'est pas horrible, on s'écoute. Et oui, il y a des moments, tu vois, il y a eu des moments, le déménagement, le fait qu'on soit pas en Grèce, tout ça, où j'ai pris un peu sur moi en me disant, ok, ça c'est un moment où je sens qu'il faut que j'arrête, je peux tenir un petit mois de plus... c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant. Comme ça, Jules, il sera dans des bonnes conditions aussi, mais il faut qu'elle saute cet été. Et c'est vraiment un truc de... savoir sentir ces moments où faut que ça s'arrête. Et au fur et à mesure, ça s'arrête facilement, quoi.
Tu t'es écoutée, t'as écouté ton bébé, et à la réunion entre les deux, il y a eu ce sevrage.
Et d'être, par contre, d'être accompagnée. Voilà. Au moins du papa, quoi. Qu'il y ait quelqu'un pour aider à sevrer, parce que c'est pas... Ça reste quelque chose qui est pas évident non plus, quoi.
Ouais, il faut avoir du relais. Et c'est vrai.
Après, quand commencer, etc., moi, je reste sur ce truc de de commencer peut-être à en enlever certaines avant que ce soit vraiment un bambin. Parce que là, ça, je trouve que la relation au sein est plus la même. Et c'est bien, je pense, de lui avoir fait connaître déjà avant que ça pouvait s'arrêter et que ça pouvait être... qu'il y avait des tétés, tu vois, qui pouvaient sauter.
Ouais.
Même si tu fais sauter à 8 mois, 3, 4, et qu'après tu restes pendant des mois comme ça, il y a eu ce passage, tu vois. Et je pense que ça, c'est bien de le faire avant que ce soit vraiment installé dans la relation allaitement bambin, quoi.
Ok. Voilà. Alors après, si ça, demain...
C'est que mon humble avis.
c'est ton avis tiré de ton expérience, en tout cas. Si demain il y avait, ce sera pas demain, j'ai bien compris, mais si demain il y avait un troisième ou une troisième, qu'est-ce que tu envisagerais pour un allaitement? Est-ce que du coup ce schéma-là qui a si bien marché, bon, tu t'épargnes la candidose et les galères de démarrage, parce que Béné nous a quand même enchaîné tous les trucs qu'on peut connaître en allaitement à peu près. Comment t'envisages, tu vois, un autre allaitement? Tu te dis objectif, refaire la même chose. Est-ce qu'il y a quand même des...
Je me dis que j'allaiterai peut-être moins longtemps.
Ouais.
Pas tant parce que ça m'a pas plu, mais plus sur ma santé et mon état de fatigue. Parce que, en fait, quand t'es dedans, t'as ce truc d'être complètement accro. Et que tu t'en rends pas forcément compte parce que ça te met dans un petit nuage un peu tout beau, tout rose, quand même, ces petits shoots d'ocytocine. Hein. Et avec le recul, là, je me dis, putain, j'ai quand même tenu vachement longtemps en étant malade à ce point. Et maintenant que j'ai retrouvé une certaine santé, que je suis moins fatiguée et tout, je me dis, est-ce qu'avec trois enfants, je pourrais tenir comme ça? Est-ce que c'est pas vraiment une grosse connerie? Parce que j'ai eu des moments où je pense que j'ai un peu frôlé le burn-out ou au moins l'épuisement total.
Physique, ouais.
Ouais. Et tu t'en rends pas compte, tu le lis pas à l'allaitement, en fait. Après, la nature est aussi faite pour faire continuer la mère jusqu'à ce que le bébé arrête d'en avoir besoin.
T'as eu la sensation que c'était l'allaitement qui vraiment rajoutait une couche, ou est-ce que c'était le truc à ce moment-là que tu pouvais enlever, tu vois, qui te permettait de faire baisser un curseur quelque part?
Non,
parce que dans mon souvenir,
vraiment...
tu vois, t'avais pas vraiment eu de congé mat, il y avait Mélonia, ton e-shop que t'as ouvert en même temps. Donc c'est vrai qu'il y avait tout un contexte aussi autour de ce postpartum, la candidose qui avait été rude.
Avec le recul, je pense vraiment que... parce qu'à la fin, vraiment, il me restait que deux tétés. C'était pas ça qui était tant prenant, tu vois. En plus, c'était pas des tétés qui duraient trois quarts d'heure. Hein.
Ouais, c'est pour ça que je te demande. Ouais.
Donc je pense vraiment que ça jouait, moi, sur ma santé physique, sur...
Ça te pompait
trop. En tout cas, on le sait, hein, que de toute façon, ton système immunitaire sert à ton bébé quand tu allaites. Et je pense vraiment que ça me mettait un... Après, bon, j'ai la spondylarthrite qui joue aussi sur le système immunitaire. Ça, je peux pas m'en débarrasser.
Non, donc, voilà. Oui, c'était un truc de plus, donc, quoi, du coup. Mais celui-là, tu pouvais l'enlever.
Ouais. Et j'ai senti un vrai... Après, je suis quasiment pas retombée malade depuis que j'ai arrêté d'allaiter, tu vois.
D'accord.
J'ai dû avoir un rhume. Alors que vraiment, j'étais malade toutes les deux semaines. Je finissais un truc, j'avais 3-4 jours tranquille, je réentamais. J'étais genre sous antibio au moins une fois par mois. Enfin, j'étais à ce point malade. Donc, d'ailleurs, tout le monde se foutait de moi, même sur Insta, en me disant « mais c'est pas possible d'être malade à ce point ». Donc, je pense que tout ça, je pouvais pas le savoir avant. Tu vois, je pouvais pas... j'avais pas allaité aussi longtemps. Je pense que pour ma santé et pour être une maman en forme et pas avec des passages à vide très très intenses, mode je vais faire un burn-out, ça va pas du tout.
Ouais. T'aurais eu besoin d'arrêter un peu avant ça.
Ouais, et je pense que s'il y a un troisième, surtout que tu te rajoutes la charge d'un troisième quand même, tout ce qui va à côté de l'allaitement, je pense que j'allaiterai sûrement moins longtemps. Pas 6 mois non plus, mais tu vois, cette petite fenêtre vers 10 mois, je pense que...
En tout cas, tu t'écouteras.
Ah, ça c'est sûr.
Encore plus.
Je m'écouterais. Pas encore plus parce que j'ai pas du tout la sensation de pas. C'était un choix, hein. C'était un truc voulu d'allaiter assez longtemps. Après, là maintenant j'ai eu cette expérience, je me dis, dis-moi, c'était chouette aussi, tu vois. Et au moins je m'enlève ce côté épuisement total.
Ouais.
de la daronne en PLS.
Ouais, mais de toute façon, tu verras à ce moment-là dans quelles conditions voilà, t'es et comment ça se présente. Et puis peut-être que tu ne seras pas du tout malade à répétition.
Si ça se trouve, je ne vais même pas allaiter.
Ou ça se trouve, tu n'auras pas envie
d'allaiter. Parce que si je me retape une candidose pareille, je pense que j'arrête.
Maintenant qu'elle sait combien de temps ça a duré, bon, elle ne recommence pas.
Allez, ça recommence. Ok, ben tu vas avoir des biberons. C'est pas grave. Allez, si on va très très bien.
Et moi, je vais continuer de manger du sucre en paix.
C'est ça. Et moi, je vais vivre avec mon petit champignon.
Et tout ira très bien. Tu parlais tout à l'heure du blues que tu as eu. Une fois que c'était. Tu vois, même cette dernière tétée qui finalement, il n'y en avait plus qu'une par jour, il n'y avait plus beaucoup de lait, etc. Mais tu as senti qu'il voilà, se passait quelque chose. Après, comment ça s'est matérialisé pour toi ? Tu vois, qu'est-ce que tu as ressenti ?
Bah, c'était, tu sais, un peu comme une dépression saisonnière, là, où quand il fait moche tout le temps, que tu as l'impression que la vie est noire et triste.
D'accord.
Bah, c'était un peu ça, genre... j'étais pas déprimée, tu vois, j'étais pas en mode dépression... Je te dis, ça faisait comme un peu un mois de novembre, alors qu'on n'était pas du tout au mois de novembre.
Ouais, d'accord.
Et je l'ai lié à ça en me disant, mais en fait, ce petit truc, ce petit bonbon rose qui venait en parachute dans la journée, ben je me le suis enlevé en fait. Et il faut que ça se. Parce qu'en un an et demi, tu t'y fais, tu vois, tu prends l'habitude. Même si ça ne se matérialise pas en grand sourire parce que t'allaites et machin, t'as quand même ce petit shoot qui devient deux fois par jour. Et. Et le fait de l'enlever, ben ouais, ça n'a pas été long, hein, parce que vraiment, il restait qu'une tétée, donc c'était pas non plus horrible, mais je l'ai ressenti, tu vois. Je l'ai lié à ça, en tout cas.
Ça t'a manqué ?
Non.
Non.
Non. Pas une seule fois, j'ai regretté, ou pas une seule fois, ça m'a manqué, ou j'ai eu envie de le remettre au sein... Je crois que vraiment, j'ai arrêté au moment opportun pour moi, tu vois.
Ok.
J'ai chialé, hein, la dernière tété. J'ai eu mon petit... j'ai regardé des photos de lui quand il... Première tété, tout ça. Donc, tu sais, j'ai laissé les larmes aussi. Si c'est normal, je dis au revoir à 20 mois. Mais par contre, j'ai pas du tout regretté. Et vraiment, j'ai pas eu envie de...
De recommencer.
Ouais, ou de me dire c'était trop tôt, machin, non. C'était vraiment le bon moment.
Ok.
Donc, non, vraiment, je te dis, quand ça a été idéal, c'est de A à Z que ça a été idéal.
Parfait.
Ce sevrage.
Génial.
Voilà.
Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ?
Je crois pas, hein. Je crois qu'on a fait un bon grand tour de la question. Hein.
Il nous reste quand même l'interview Fast Meal que tu vas refaire pour la troisième
fois.
Allez. C'est quoi, alors maintenant que cet allaitement s'est terminé, c'est quoi ta tétée la plus insolite ?
Je sais pas. Il y
en a eu trop. Allez, une.
Attends, est-ce qu'il y a la question après
Il y a la plus glamour aussi, tu sais.
La plus glamour.
Tu connais pas l'interview Fast Meal Parker ?
Je me souviens plus.
Béné.
Putain, pourtant, c'est mon podcast. Alors, attends, la plus insolite. Oh là là, je sais pas. Dans l'eau, je dirais.
Dans l'eau ?
Ouais, dans la mer.
Ok, très bien, ça me va.
Ouais, j'ai pas eu non plus de tété trop what the fuck, tu vois.
Ok.
Je sais plus ce que j'avais répondu.
On n'est pas obligé, hein. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement.
Celle dans le désert. C'est toujours.
Oui, celle-ci qui est vraiment glamour.
Elle était, puis cette vue que j'avais avec mon bébé au sein et tout. J'en ai pas refait
d'aussi belle.
Ouais, d'aussi waouh à ce moment-là.
Ta position préférée, laquelle ça restera ? La dernière fois, tu nous avais dit que c'était allongé sur le côté.
Ouais, je crois que c'est celle-là, hein. Celle qui permet de dormir.
Celle-là, sauf à 6h du mat quand il te met des points.
Ouais. Ah, c'était un peu moins chouette.
Et alors, si en un mot, tu pouvais résumer cet allaitement maintenant qu'il est terminé, tu dirais quoi ?
Oh là là. T'aurais dû m'envoyer ta. Des questions avant que j'y réfléchisse. En un mot, c'est le moment où tu cherches toujours un truc un peu original pour sortir du lot. Il n'y a rien qui me vient.
Sortir du lot.
Je vais dire. Moi, j'ai envie de dire exceptionnel, mais bon, tu vois, c'est pas du tout original.
c'est pas original, ça peut te mettre quand même sur la première place du podium. Mais...
beau. Exceptionnel ou beau. Juste beau, tu vois. C'était beau.
Ok, c'est bien. C'est un bon résumé. Oui. Après 20 mois d'allaitement, un sevrage qui se passe comme tu veux, ouais. Un démarrage un peu raide.
Ouais, mais...
La dernière fois, t'avais dit ténacité.
Oui, mais parce que je sortais de...
Oui. Donc tu vois, on termine sur beau, je trouve que l'évolution,
final,
bah, elle est cool.
Au final, sur 20 mois, qu'est-ce que c'est, 4 mois hein.
Oui,
j'en
sur 20.
J'ai une de beau, donc ça surpasse.
Tout à fait. Ok, bon écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté
avec
ça jusqu'au bout, de nous offrir un joli témoignage de sevrage qui se passe bien, de, voilà, d'un couple maman-bébé qui s'écoute en fait et qui se prépare et qui voilà, montre que bah, ça peut très très
ouais,
bien
se
passer.
C'est un truc que j'ai pas dit non plus, mais le laisser partir aussi, ça a été dans notre sevrage, tu vois, quand ça venait de lui, je forçais pas.
Ouais.
Il y a eu des tétés qu'il a fait sauter lui, mais on trouve ça beaucoup plus normal parce que c'est la décision du bébé de machin. Mm. Mais au final, je lui proposais pas, tu vois. Si je pense que ça fait partie du tout.
Mm.
Si c'était lui qui décidait, ben c'était ok.
Bien sûr, et parfois c'est pas facile de les laisser grandir.
Ouais. Parfois t'as des bébés qui vont sevrer beaucoup plus tôt et ou qui vont faire sauter une des tétés que toi t'aimais bien.
Mm.
Et en fait, ben, faut aussi l'accepter parce que nous aussi, on est des grosses camées. Voilà.
Voilà. C'est voilà. Tu l'as dit à
on
plusieurs reprises.
On a plus
reprises.
De notions de prendre sur nous et de gestion d'émotions qu'un bébé, mais au final, ça reste pas forcément évident pour la maman non plus de laisser faire. Tu vois.
Non.
Ça, c'est un truc que j'ai pas dit et que j'ai fait.
Complètement, mais c'est vrai que ça compte dans les sevrages. On sait que, comme toute... Céline en parle dans l'épisode précédent, qui est du coup le 91, là, si jamais vous allez l'écouter, sur le... Je l'ai appelé le deuil de l'allaitement, parce que voilà, c'est par quelles émotions, finalement, on passe après un arrêt d'allaitement ou pendant l'arrêt de l'allaitement, pour les différentes raisons pour lesquelles on peut sevrer, qui sont multiples. Et même sur un sevrage naturel, où c'est le bébé qui décide à 100% qu'on n'induit rien, voilà, on a aussi... notre part de responsabilité de en fait, est-ce qu'on est prêt à ce moment-là à ce que notre enfant passe une étape de vie, en fait. C'est une
c'est
étape
ça,
où ils grandissent et c'est les laisser un peu partir. Et elle dit assez justement, bah, c'est comme l'entrée à l'école et le premier truc qu'ils font et machin, bah, voilà, ça peut générer des émotions et c'est ok. Et il faut les accepter
faut
aussi.
Il faut se les laisser vivre et les accepter.
Ouais. Mm. Et voilà, et c'est pas toujours facile.
Ouais,
donc,
c'est vrai. Et
si,
attends, je voulais juste rajouter un truc parce que j'ai beaucoup parlé de mes copines dont j'ai vu les
galères.
Sevrages galères. Je veux juste ajouter que jamais, au grand jamais, j'ai jugé, tu vois, leur choix. Par contre, non, mais
bien
parce
sûr.
Que souvent c'est extrapolé ce que tu dis et c'est en les voyant que je me suis dit, ok, les pauvres, même elles le vivaient pas bien, tu vois.
Bah, bien sûr,
ça,
c'est
ça
dur.
Ça fait mal au cœur. Je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais essayer qu'on l'évite, mais pas dans le sens... putain, elle aurait jamais dû faire ses choix. Pas
non,
du
parce
tout,
que
c'était
toi,
juste,
tu te sentais pas capable.
Non, mais tu vois, c'était pas tant pas capable de vivre ça, mais c'était plus... ok, bon, bah t'as pas eu une très bonne expérience parce que bah, tout simplement, tu savais pas. T'avais pas vécu d'autres, tu vois, où à ce moment-là, tu pouvais pas faire autrement, ou alors... ton envie de sevrer t'est tombée dessus, parce que des fois c'est ça, t'as un projet d'allaitement qui est d'aller super loin et puis en fait en 2 mois il y a un événement de vie qui fait que bah, faut sevrer, tu vois, donc ça n'a jamais été un jugement de ma part à me dire ah elle aurait pas dû faire comme ça machin, mais plus partir du constat que ça a été difficile pour elle et me dire ok ben bah, moi j'ai ces expériences d'amis proches. Est-ce que je peux essayer de m'éviter ça, tu vois?
Oui, tu t'es plutôt dit que c'était une chance d'avoir ces expériences autour de toi pour essayer
me dire,
toi
bon,
de.
Bah, elles sont passées avant moi. Je vais me servir de leur galère pour essayer que ce soit différent pour moi parce que ça me faisait de la peine de les voir comme ça, mais pas, enfin jamais, au grand jamais, je me suis dit qu'elles auraient pas dû faire comme elles ont fait.
Non, non, il faut
parce
retenir une chose, c'est qu'on fait ce qu'on peut à l'instant T, avec ce qu'on a, donc
et
c'est déjà pas mal.
Ouais, vraiment déjà pas mal. Non, mais
c'est
tu vois,
pas toujours
pas
optimum.
Dire oui pour moi, ça s'est bien passé, alors que que en fait moi j'y allais un peu à l'aveugle, donc là je raconte ça avec du recul en me disant c'est trop bien, ça s'est bien passé, mais ça se trouve, enfin quand j'ai commencé je savais pas où j'allais,
tu vois, oui, tu savais pas que ce serait aussi facile finalement. Tu t'attendais à un truc hyper galère. Non, tu dis bon, facile.
Donc, et aussi j'avais, c'est l'histoire d'une maman et d'un bébé.
Voilà, exactement. Voilà. C'est l'histoire, voilà, en effet, de ton bébé, de toi, à un moment donné. Ça aurait peut-être été différent dans un autre contexte de vie avec vous deux aussi.
Et puis avec d'autres, donc, d'autres choix, d'autres événements de vie aussi. Enfin,
exactement.
Pas toujours, tu as des trucs qui te tombent dessus, tu ne peux pas faire autrement, quoi.
Bien sûr, donc avec toute l'humilité du monde. C'est en tout cas, pour toi, ça s'est bien passé, tant mieux.
Non, mais je voulais, tu vois, je voulais, parce que souvent, quand tu parles... beaucoup de gens extrapolent et prennent un peu pour eux ce que tu es en train de dire, en mode ça c'est une critique contre moi, alors que pas du tout en fait.
Non, non, ouais. Donc si vous avez sevré différemment, que ça s'est pas bien passé, ne prenez pas ça pour vous.
Limite, il aurait fallu mettre ça, ce qu'on est en train de se dire au début de l'épisode.
On peut, j'essaierai de faire quelque chose au montage, si j'y arrive pas, on le laissera à la fin. Les gens écoutent jusqu'au bout en général. Mais voilà, si vous n'avez pas la même expérience, c'est OK. En tout cas, quoi qu'il arrive, et là, je reviens à l'épisode 91 que vous pouvez écouter avec la consultante en lactation là, sur le deuil de l'allaitement. Si la situation vous donne des difficultés, ne restez pas seule là-dedans. Consultez, il y a des solutions, qu'elles soient d'ordre physique, d'ordre émotionnel. Les difficultés peuvent avoir un accompagnement.
Et c'est primordial.
Voilà, et ne restez pas en galère là-dedans si l'expérience que vous êtes en train de vivre ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez imaginé et que, surtout, ça vous cause... du souci, parce qu'on peut arriver très bien à surfer sur une vague un peu costaud, tout comme se faire embarquer dedans et très mal se réceptionner.
Être coincé dans le rouleau.
Voilà. Donc, ne restez pas coincé dans les rouleaux. D'ici là... Non, voilà. Non, mais on va s'arrêter sur ça.
Ce sera la phrase de fin.
Ce sera la phrase de fin de ce podcast. Merci beaucoup, Béné, pour ton témoignage. Bon, si t'en fais un troisième, tu seras le fil rouge, hein, si je suis encore dans les parages.
Bah, écoute,
pour parler allaitement, hein, mais voilà, il va se passer un peu de temps.
Aucun bail à céder.
Voilà, d'ici là, vous ne devriez plus entendre parler de Béné pendant un petit moment.
Pendant un petit moment, mon utérus n'est pas... J'ai décidé de lui fermer sa bouche.
Et les boobs se mettent au repos.
Voilà. Ils sont à moi.
Sur ce, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans Milkshaker. Salut Béné.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020 sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
Thank you.